Alors, la semaine dernière, on a terminé avec un témoignage. J'ai pensé de le ramener. Pour ceux qui n'étaient pas là, mais je pense pour ceux qui étaient là, ça vaut la peine. C'est un témoignage puissant de l'Évangile de Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il y a au centre de l'Évangile de Jésus. Alors, c'est une histoire, l'histoire de ce gars-là qui s'appelle Charles Carl Roberts, père de 3 enfants. Et puis, il est entré dans une école, ça c'est une école, il a déchargé son fusil, il a tué 5 petites filles, entre 7 et 13 ans, et il en a blessé 5 autres. Il y a une lettre d'adieu qui est écrite, où il dit « Je suis tellement rempli de haine, haine contre moi-même et haine contre Dieu ». Parce que il avait perdu un bébé, un enfant, quelques années auparavant. Et il avait gardé cette rancune-là contre Dieu. Et il avait décidé de défouler ça sur la petite communauté Amish. Et la journée même, juste dans les heures qui ont suivi, cette communauté-là, ce village-là, ils ont tous pardonné. Les parents des filles tuées ont pardonné, les grands-parents des filles ont pardonné, les oncles, les tantes ont tous pardonné. Puis après avoir enterré leurs propres enfants, les parents Amish ont assisté aux obsèques de l'auteur du crime. Ils ont exprimé leur condoléances à la famille. 70 membres de la communauté Amish se sont présentés à l'église afin de prier, d'offrir leur soutien et leur sympathie à sa veuve et à ses enfants. Ils ont embrassé la femme et le père du tireur. Ils ont enlacé dans leurs bras la mère éplorée du tueur, qui est là, en haut. L'épouse de l'assassin a participé aux funérailles de l'une des petites filles à l'invitation de la communauté. La mère du tueur, à partir de ce moment-là, a rendu visite à une petite fille qui était fortement handicapée. Elle marche plus, elle parle plus. Elle mange plus, elle est intubée. Elle s'assoit avec elle tous les jeudis soirs, elle lui donne son bain, la berce, lui raconte des histoires pour l'endormir. Et finalement, les membres de la communauté Amish qui ont enterré 5 de leurs petites filles cette semaine sont en train de récolter de l'argent pour aider à la veuve et les enfants de Charles Carl Roberts, l'homme qui a exécuté leurs propres enfants avant de se tuer. Une sage-femme, Amish, a déclaré à NBC News ce mardi, ça date quand même de 2006, que c'était normal pour eux, c'est ce que Jésus leur disait de faire. C'est à nous à montrer l'exemple. Hein? S'il y a une chose que le monde a besoin, c'est une chose que Cloverdale a besoin, c'est une chose que la province du Québec a besoin, c'est le pardon. Apprendre à pardonner. Et qui va montrer aux Québécois à pardonner? Les Amish sont arriérés? Peut-être sur bien des points, ils se promènent en calèche. Mais on va dire, ils ont une longueur d'avance sur le reste de la société. Ils savent c'est quoi le pardon. Pas juste ils savent c'est quoi. Ils le vivent et ils le pratiquent. Facile de dire « Père, pardonne-nous nos offenses », moins facile de dire « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et ça rejoint les sens essentiels, parce que le thème, c'est l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Et est-ce qu'on pourrait dire que la plus grande chose qu'on peut retenir de l'enseignement des apôtres, c'est « Si je n'ai pas ça », je ne suis rien. Je fais rien de bon. C'est quoi qui est le plus grand au centre de l'Évangile? L'amour. Si je n'ai pas l'amour, mon frère, ma sœur, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. J'ai raté ma vie. Je suis en train de rater ma vie. Si je n'ai pas l'amour, si je ne suis pas aimé et que je n'aime pas, je suis en train de rater ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aime? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimes? Et qu'est-ce que c'est, hein? Si je vous demandais quelle était la personne la plus proche de Jésus, pardon? Son père? Dieu le Père. Ah, vous êtes trop spirituel, là. Dans son ministère, mettons. Après son père. L'apôtre bien-aimé, 10 sur 10. 10 sur 10. Moi, je pense que c'est lui. Il a été choisi. Il a été choisi pour être avec lui. Dieu l'a choisi pour être avec lui. Il était dans le cercle. Tu sais, il y avait un trio, là. Le premier trio des apôtres, il était trois qui jouaient sur ce trio-là, et il était dans ce cercle intime-là. Il a été témoin de la transfiguration, il a pris les trois, les a emmenés, ils ont vu Jésus transfiguré. Il a été témoin aussi de dans le jardin de Gethsémané, quand Jésus pleurait, puis des gouttes de sang. Il était très, très proche. Il s'appelait le Fils du tonnerre. Et, sur la croix, Jésus lui a dit, voici ta mère. Alors, on parle de Jean, hein, l'apôtre Jean. Et quand on lit ses évangiles et qu'on lit ses épîtres, qu'est-ce qu'on retient? C'était quoi le message de Jean? Qu'est-ce que lui a retenu de Jésus? Peut-être l'être humain le plus proche là, de Jésus Sauveur, de Jésus le Messie. C'est quoi qu'il a retenu de son message? Le mot, le thème revient des centaines de fois dans son évangile, dans ses épîtres en particulier. Et peut-être le verset le plus connu sur la terre, peut-être. Un des versets les plus connus sur la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ouais. Qui a dit ça? Jean. C'est ce qu'il a retenu. Hein? Et c'est intéressant parce que j'ai fait comme un survol de toutes les expressions que Jean emploie dans ses épîtres. Et regardez, il y a comme un cycle, comme un engrenage. Un engrenage qui commence par... Ah, c'est supposé donner ça comme ça, mais en tout cas. Peut-être si... OK. Alors, le Père et le Fils s'aiment. Au centre de tout ça, l'amour est la meilleure preuve que de la Trinité, c'est ça. Hein? Le Père et le Fils s'aiment. Si Dieu était tout seul... il saurait pas ce que c'est que l'amour. Alors, le Père et le Fils s'aiment, et vous avez tous les versets dans l'Évangile, le Père aime le Fils, le Père aime le Fils, car le Père aime le Fils, le Père m'aime parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors, c'est affirmé premièrement à la base que le Père aime le Fils, et un peu plus loin, dans Jean 17, 24, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, mais afin que, peut-être le lever un petit peu, mais afin que le monde sache que j'aime le Père. OK? Alors ça, c'est le premier... première étape. Le Père aime le Fils aime le Père. Deuxième étape. Non, ça marche pas. Ah! Il y a un problème avec le programme. En tout cas, est-ce qu'on peut, on peut lire? Bon, on va y aller comme ça, tiens. Le Père et le Fils nous aiment. Ils nous adoptent dans le cercle intime de leur amour. Deuxième étape, on entre dans ce cercle intime de l'amour de Dieu. Et voyez les versets. Le Père nous aime comme il aime son Fils Jésus. Je dis ça de même, là, mais on peut-tu réaliser, prendre conscience de ce que Dieu est en train de dire là? Hein? Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. C'est qui ça? Oui, Tu les as aimés comme? Comment le Père a aimé le Fils? Un petit peu? À l'infini. Alors, comme... Oups! Comme le Père aime le Fils, le Père nous aime. Et dans le verset suivant, Jésus nous aime comme son Père l'aime. Wow! Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Alors, tu les as aimés comme tu m'as aimé, ça va? Alors, je sais que là, je m'adresse au cerveau, mais il y a quelque chose de puissant dans le cœur. Le Père et le Fils s'aiment. On entre dans le cercle intime de l'amour de Dieu. Et la troisième étape? Bon.
Ah oui, c'est mon Dieu.
C'est mon Dieu. En retour. Hein? Nous aimons Dieu, nous entrons expérimentalement dans le cercle intime de l'amour de Dieu. Non seulement Dieu nous aime, mais on aime Dieu en retour, hein? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alors, Jean continue son cycle. Et là, maintenant, non seulement Dieu nous aime, mais nous aimons Dieu en retour. Et on va y aller avec le suivant. Le cercle intime de l'amour de Dieu s'agrandit et unit tous ceux qui s'aiment les uns les autres comme ils aiment Dieu. Alors, aimant Dieu, nous nous aimons les uns les autres. Non seulement on aime Dieu, Dieu nous aime, on aime Dieu, mais là, on aime les frères et les sœurs dans la foi, dans la famille de Dieu. On aime l'Église, entre autres mots. Hein? Mon amour pour Dieu se vérifie dans l'amour que j'ai pour l'Église. Je vous donne un commandement de nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et ça, c'est dans l'Évangile, mais regardez, il y en a plein. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère ou aime pas son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, je peux pas. Ah oui, encore plus. Aimez vos ennemis. OK, mais on pourra en reparler. Oui. Oui, mais Dieu a dit, aimez nos ennemis, aimez ceux qui vous ont fait du mal. Non. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. On pourra s'en parler. Alors, si quelqu'un dit j'aime Dieu puis qu'il haït son frère, c'est un menteur. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, qui aime Dieu, qui lui a donné la vie, aime aussi celui qui est né de lui. Alors, on n'a pas le choix, les frères et sœurs, de s'aimer les uns les autres, peu importe nos défauts, peu importe nos manquements, on a ce commandement-là du Seigneur de s'aimer les uns les autres. Est-ce que c'est fini? Il reste un dernier engrenage au cycle. L'amour de Dieu est révélé au monde. L'amour de Dieu, le monde connaît l'amour de Dieu, hein, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, l'effet se répand en dehors de l'Église. Hein? Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Les gens de l'extérieur vont savoir que Dieu les aime lorsqu'ils vont voir que les enfants de Dieu s'aiment. Il y a un endroit ici à Cloverdale où les personnes s'aiment. Et qu'est-ce que le monde a besoin? de l'amour. On ne peut pas, pas un être humain qui peut vivre sans amour. Et la plus grande preuve que Dieu nous aime, ça s'est produit il y a 2000 ans à la croix. Jésus a donné sa vie pour ceux qu'il aime. Et le Père a donné son Fils pour ceux... Vous avez des enfants? Est-ce que vous donneriez votre Fils pour votre ennemi? Quelqu'un qui vous méprise, qui vous fait du mal? C'est ce que Jésus a, c'est ce que Dieu a fait. Il a donné son Fils. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Mais Jésus il a brisé le pouvoir, l'emprise de ce maudit péché-là. Hein? C'est ça qui s'est passé à la croix. Le maudit péché qui tient les êtres humains sous son emprise, qui les détruit, qui leur fait du mal, qui les torture. Jésus a réglé ça à la croix. Il a réglé ce qui empêchait que j'ai une relation avec Dieu, ce qui empêchait que j'ai une relation avec les autres personnes, puis que j'ai une relation saine avec moi-même aussi. C'est ce qui s'est produit à la croix. Et devinez comment est-ce qu'on peut recevoir cet amour-là en acceptant le pardon de Dieu. Ça part avec le pardon de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a pardonné. Il n'y a pas une relation au monde. Il n'y a pas une relation au monde qui est possible sans pardon. Parce qu'on est tous pécheurs. On est tous imparfaits. Il n'y a pas une relation qui tienne dans ce monde s'il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de relation de couple, mari-femme, qui va être heureuse, qui va être saine, qui va être épanouie, qui va être satisfaisante s'il n'y a pas de pardon entre le mari et la femme. On peut dire la même chose de la relation entre parents-enfants, patron-employés, vous travaillez, les boss qui sont durs, si vous ne pardonnez pas à votre boss, ça va gâcher toute votre journée, vous allez ruminer, vous allez rester dans l'amertume, vous allez rester dans la haine, vous allez parler contre lui en dehors, vous allez vous venger de toutes sortes de façons. On connaît le système, n'est-ce pas? Les parents, les amis, l'église, il n'y a pas de relation possible dans une église s'il n'y a pas de pardon. D'accord? Et les parents, là, on a besoin d'apprendre ça, on a besoin de vivre ça, puis on a besoin très très tôt de communiquer ça avec nos enfants. On a beau les frapper, là, on a beau les discipliner tant qu'on voudra, là, mais tout ce que ça fait, là, de taper dessus, là, ça fait qu'il n'y a plus de valeur. L'enfant n'a plus de valeur. Hein? Il ne vaut plus rien, puis à un moment donné, il n'a plus rien à perdre, puis il va se ficher bien, il va bien se ficher des conséquences. Puis il va faire sa tête parce qu'il n'y a pas de valeur, il vaut rien. Tant qu'à valoir rien, hein? Alors, on a besoin d'enseigner à nos enfants le pardon, parce que le pardon, ça lave, ça purifie. L'enfant, il sort de là, oui, il était puni, oui, il y a eu des conséquences à ses actes, mais oui, il est lavé, purifié de cette offense-là, de cette chose-là. Puis il sort de sa chambre, puis il est un homme nouveau, un enfant nouveau qui peut recommencer à vivre. Amen. Alors, j'ai pas de relation avec Dieu sans pardon. J'ai pas de relation avec les uns et les autres sans pardon. Et je pourrais dire, j'ai pas de relation saine avec moi-même sans pardon. Sans que je me pardonne ou que je reçoive le pardon de Dieu. Pour ce que j'ai dit de mal, ce que j'ai fait de mal. Les Amish ont compris ça. Les Amichel ont compris ça. C'est notre message. Si on veut transformer ce quartier, ça c'est le message de l'Évangile. Hein? des plus grandes preuves d'amour, c'est ma capacité de pardonner. Puis je dirais, un étage plus haut, là, ma capacité de pardonner à ceux qui m'ont offensé, mais capacité de demander pardon. Demander pardon. Ça, c'est bien plus fort. Hein? Ça exige beaucoup plus. C'est une priorité. C'est une urgence. C'est une urgence. Jésus, il a dit, si il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, laisse là ton adoration, ton offrande, laisse là ce que ta relation avec Dieu, si tu veux, puis va régler ce que tu as sur le cœur avec l'autre personne. Viens pas me voir tant que t'as pas réglé ça. Est-ce que c'est important? C'est écrit ce qu'il y a de meilleur, mais c'est sur le bulletin. Ce qu'il y a de meilleur dans une engueulade, dans une chicane, c'est la réconciliation. Parce que on renoue les liens beaucoup plus forts. Puis là, c'est une église qui a mis ça comme affiche. Vous qui entrez ici, réconciliez-vous. J'ai trouvé ça bon. Vous qui entrez ici, autrement dit, je peux pas avoir une relation avec Dieu si j'haïs mon frère, j'haïs telle personne. Dis pas que t'es en règle avec Dieu puis que tout va bien avec Dieu puis que l'Église, elle, tu peux t'en passer. Hein? Non. Réconcilie-toi. Pratique cet amour-là avec tes frères et sœurs. Pardonne avec ceux qui t'entourent et tu vas avoir un accès auprès de Dieu. Ouais. Ouais, on en reparlera. Ouais. OK. Dieu est le juge. Dieu est le juge. Il a le droit. Ouais, il est le juge. OK, tu m'as posé une question, je peux-tu répondre? OK. Alors, Dieu est le juge. Lui, il a le droit de juger les personnes. Il a le droit... Oui, mais là, tu veux pas entendre ma réponse. Ouais. Non. Tout ce que je peux, mais je peux vous dire la réponse, hein? Dieu est le juge, lui il a le droit de punir les méchants et il va le faire. Mais nous, on n'a pas le droit de se venger, on n'a pas le droit de répliquer de la même façon dont on a été traité. Alors, dans l'Apocalypse, ça parle du jugement dernier, ça parle que chacun va recevoir selon ses œuvres, mais ça appartient à Dieu, c'est pas à nous de faire ça. On va prier pour notre... Oui, le seul droit qu'on a. Oui. 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 Amen. Oui. Et toujours la bienvenue. Alors, où est-ce que j'en étais, là? OK. Oui. Important de pratiquer le pardon, d'avoir ce témoignage-là. Que l'Église, l'Oasis, c'est un endroit où on peut recevoir le pardon et on se pardonne les uns les autres, puis on monte le chemin, on est contagieux. Deuxième personne, ça c'est Jean. Oui, Valentine. Non, non. C'est pas ça que j'ai dit. C'est ma relation avec Dieu est brisée tant que je n'ai pas pardonné à la personne. Oui. 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 Alors, je pense que t'as fait ton devoir devant Dieu. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre cette personne-là dans les mains de Dieu. Puis espérer, parce que c'est pas parce que je lui pardonne qu'elle est pardonnée. J'ai pas, hein, l'être humain n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Et je fais, en lui pardonnant, je fais simplement que lui montrer le chemin. Et j'ai quelque chose contre la personne, je lui dis ce que ça me fait à moi, qu'elle m'a blessé, qu'elle m'a offensé. Si la personne le prend mal, puis elle ne se repent pas, puis elle conteste, ben ça va se régler devant le tribunal de Dieu un jour. Hein? Alors, non, le Seigneur nous demande, on contrôle pas la réaction de l'autre personne, mais on contrôle notre réaction. Si on essaie de se réconcilier, puis la personne, elle veut rien savoir, je sais pas, moi, une femme qui vient d'être violée, là, puis qui attente la réconciliation avec le violeur, c'est pas évident. Hein? Oui. OK, deuxième personne qui est très, très proche. Vous diriez, c'est qui? Il est nommé 126 fois dans les évangiles. Il est toujours le premier. Ouais. Oui, Jean, c'est à peu près 25 fois, lui, qui est mentionné. Et Pierre, 126 fois. Il est vraiment dans le cercle intime, hein, lui aussi. Fougueux, impulsif, toujours le premier. Il a fait les plus grands exploits qu'un être humain n'a pas pu faire. Il a marché sur l'eau. Imaginez. Incroyable, hein? Et il a dit, le premier à faire profession de foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, c'est pas la chair et le sang que ton, c'est pas, ça vient pas de toi, ça, c'est une révélation de Dieu. Tu viens de dire quelque chose de puissant. Et je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Imaginez mon Pierre, hein, qui se pète les bretelles, là, puis il l'a fait. Mais la suite, le verset suivant, les versets suivants, c'est quoi? Souvenez-vous? Jésus leur annonce qu'il va souffrir, qu'il va aller à la croix. Il dit, Seigneur, inquiète-toi pas, je suis là. Hein? Il se met à lui faire des reproches. Ça t'arrivera pas. Hein? À Dieu ne plaise, Seigneur, ça t'arrivera pas. Et là, qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan. Il est passé d'un extrême à l'autre. Il est passé de Pierre sur Pierre à arrière de moi, Satan. Ses pensées, c'est pour moi un scandale. Ce sont pas celles de Dieu. Autant il y avait des paroles qui étaient celles de Dieu, autant il y a des paroles qui n'étaient pas celles de Dieu. Et grande gaffe, hein? Qu'est-ce qu'on retient de Pierre? Après 3 ans, il a suivi Jésus. Il est allé le renier. Lui qui avait dit, hein, je suis prêt à mourir pour toi. Devant une épreuve, devant un test, il a failli complètement le test. Hein? Il a renié Jésus ouvertement, avec des imprécations, c'est dit. Des imprécations, là, que la malédiction de Dieu tombe sur moi si je mens. C'est allé loin, là. Est-ce que la malédiction de Dieu est tombée sur lui parce qu'il a menti? Qu'est-ce qu'il y avait dans le regard de Jésus? La colère de Dieu est tombée sur Pierre. Toi, mon espèce de Pierre, mon espèce de menteur, mon espèce de traître, mon espèce de bon à rien, espèce de lâche. C'est ça qu'il y avait dans le regard de Jésus? Qu'est-ce qu'il y a dans le regard de Jésus lorsque je tombe, lorsque je pêche? Une tristesse, mais il a vu le pardon qu'il n'avait pas mérité. Il a vu l'amour inconditionnel de Jésus, ce que Judas n'a pas vu. Judas s'est apitoyé sur son sort, puis il s'est puni lui-même, puis il n'était pas capable de se regarder en face. Il a voulu arrêter de souffrir de son péché, de sa performance, et puis il s'est puni lui-même en pensant qu'il allait échapper peut-être au jugement de Dieu en se maltraitant. Tandis que Pierre, lui, était conscient de son échec, échec total, conscient de sa culpabilité. Est-ce que la vie de Pierre était finie? Bon à rien. Seigneur, toute la mission que le Seigneur lui avait dit, c'est fini. Jésus ressuscite et regardez la chose qu'il dit. Il ressuscite. Il y a un ange qui apparaît. L'ange dit aux femmes, allez dire à ses disciples et à Pierre en particulier, hein, il sépare des 11 autres, des 10 autres. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre que je vous précède en Galilée. Mettons-nous dans la peau de Pierre un petit peu, là. Il vient de tout gâcher, il a tout laissé tomber. Et puis Jésus ressuscite et dit, j'aimerais te voir, Pierre. Un rendez-vous particulier avec le Seigneur. Wow! Hein? Jésus prend l'initiative, il fait les premiers pas. Il veut retrouver l'intimité avec Pierre. Et on se souvient de la rencontre, cette rencontre-là. Qu'est-ce que Jésus fait là? Trois fois, Pierre a renié Jésus. Puis là, trois fois, mon Pierre, tu vas refaire ta confession de foi, ta profession de foi. Tu fais de la torture mentale. Pourquoi est-ce qu'il ramène ça? Pourquoi est-ce qu'il tourne le fer dans la plaie? Tu m'as renié trois fois. Ben, tu vas me confesser, là, pas juste des lèvres, mais du cœur. Tu vas me confesser trois fois. Et regardez la première fois, qu'est-ce qu'il dit? Ouch! Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Le doigt dans le cœur, là. Hein? Parce que c'est ce qu'avait dit Pierre. Il y a quelques semaines auparavant, Pierre aurait dit, ben oui, Seigneur, tu sais que je t'aime bien plus que les autres. Hein? Alors, t'as allé mettre le doigt sur le bobo. Et qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Pourquoi est-ce que Jésus ramène ça? Pourquoi est-ce que Jésus ramène l'échec de Pierre? Parce qu'il a besoin d'être guéri. Il a besoin de guéri. Il a besoin de vérifier qu'il y a quelque chose qui s'est passé lorsqu'il a pleuré amèrement sur son échec. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que Pierre n'est plus le même. Les 3 ans qu'il a passé avec le Seigneur, il n'a pas changé. Mais c'est cette épreuve-là qui a gâché, qui l'a changé pour toujours. Pierre, à ce moment-là, c'était plus le même Pierre. Et Jésus est en train de mettre son doigt sur son cœur. Pierre, de dire que tu es un disciple, un apôtre des lèvres, ça t'offre pas longtemps. Mais de le dire du fond du cœur, c'est une autre chose. Et il lui prédit un peu plus loin qu'il allait être persécuté à cause de sa foi, et probablement crucifié lui aussi. Jésus est en train de rétablir Pierre dans ses fonctions, il est en train de lui redonner une seconde chance, on peut dire, de lui redonner sa mission, et il veut vérifier que son cœur est à la bonne place. Où est ton cœur, Pierre? Où est ton cœur? Ça, c'est la question que le Seigneur me pose. Et j'ai besoin d'être rétabli dans mon cœur. Si Jésus ramène ce passé-là, c'est parce qu'il veut le régler. C'est parce qu'il veut tester le cœur de Pierre. Il ne veut pas de la torture. Il veut guérir. Il veut libérer Pierre. Il veut s'assurer que le nouveau Pierre a une foi inébranlable. Jésus a besoin d'entendre la confession de Pierre, mais je pense que Pierre a encore plus besoin d'entendre sa propre profession et de voir son cœur. De dire là, oui Seigneur, oui c'est Jésus, tu es mon Seigneur, et oui je veux te servir pour le vrai, pas juste des lèvres. Oui Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Est-ce que je peux dire ça? Honnêtement, sincèrement, va dans le fond de ton cœur. Je vais dans le fond de mon cœur. Oui, sincèrement, Seigneur. Je sais que je t'aime. Et regardez ce qu'il va écrire dans une de ses épîtres. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Est-ce qu'on a ce portrait-là? On met les pieds tantôt dehors. C'est ce portrait-là qu'on a. Résistez-lui avec une foi ferme, comme moi j'ai pas fait la première fois. Quand il dit veillez, hein, c'est ce que Jésus avait dit à Pierre. Veillez dans le jardin de Gethsémani. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, les mêmes épreuves sont imposées aux vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce. Ça veut dire quelque chose dans la bouche de Pierre, ça. Le Dieu de toute grâce qui est intervenu puis est venu me rechercher quand j'étais dans la dans l'échec total, vous a appelé à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Ça, c'est le nouveau Pierre. Hein? Il va vous rendre inébranlable. Alors, c'est facile de dire « j'aime Jésus » quand il n'y a pas d'épreuve dans ma vie. Mais qu'il arrive une épreuve, et là, on va savoir si tu aimes Jésus. Facile de suivre Jésus quand il n'y a pas de tentation. Mais qu'il arrive une tentation, on va voir c'est quoi tu choisis. Facile de professer des lèvres qu'on est chrétien. Si ça coûte rien, s'il n'y a pas d'engagement. Et de la minute que on veut servir le Seigneur, ça coûte quelque chose. Et là, le Seigneur veut vérifier mon cœur. Où est ton cœur, Michel? Pierre, il peut témoigner. Pierre, il peut témoigner. Qui a traversé cette période-là où son cœur a été testé. Et par la grâce de Dieu, il en est sorti vainqueur. C'est Dieu qui a raffermi son cœur. C'est Dieu qui est allé le chercher, qui l'a ramené. Dieu veut ton cœur en entier, mon frère, ma sœur. Pas juste. Il y a un second appel. Hein? Il avait déjà dit « suis-moi ». Et un peu plus tard dans le récit, Jésus, il termine le récit en disant « Pierre, suis-moi ». Après qu'il a vérifié que son cœur était à la bonne place, il a dit « Pierre, suis-moi ». Et ce « suis-moi-là », il a compté dans la vie de Pierre. C'était vrai, là. Hein? C'était vrai. Jamais plus il allait retomber dans cette, dans ce piège-là. Alors, bonne question. Michel, m'aimes-tu? Je peux mettre ton nom. M'aimes-tu des lèvres? Ou est-ce que ton cœur est avec moi en entier? As-tu passé le test? Quel est le message de Pierre? Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ardemment, ça veut dire quoi? Quand je pense à un frère, une sœur dans l'église, une flamme qui brûle. Hein? Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Il y a cette puissance-là, ce nouveau cœur qui est en moi, puis qui désire aimer les frères et les sœurs. Et ajoute un peu plus loin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments, soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, etc., etc. Ne rendez pas le mal pour un mal, ni l'injure pour l'injure. Ça, c'est le cœur de l'Évangile, c'est là, vraiment, que ça, la preuve qu'on est un enfant de Dieu se joue. Ma relation. Un troisième personnage que on va regarder, et je pense que dans son message, l'amour était au centre. C'est lui qui a dit, si je n'ai pas l'amour, je suis rien, et tout ce que je fais ne vaut rien. Hein? L'apôtre Paul. Il n'a pas connu Jésus personnellement dans son ministère, mais il a eu des révélations de Dieu, il est allé dans la présence de Jésus, et il a jasé avec lui. En tout cas, il a eu une relation intime avec Jésus. Et je termine avec un verset le plus connu, peut-être, dans les mariages, et c'est le contraire. C'est toutes les 1 Corinthiens 13, mais avec toutes sortes de nuances qui ça implique. Puis j'aimerais juste le lire. Fermez vos yeux pendant que je le lis et recevez le message comme un test peut-être. On parlait d'épreuves de notre foi ou de notre amour. Alors juste saisir les paroles avec votre imagination, avec celui qui aime est patient, il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de douceur. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien. L'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière arrogante. Celui qui se vante et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour est plein d'attention. Il évite de blesser ou de choquer. Il n'est pas dédaigneux ni méprisant. Celui qui aime ne saurait agir à la légère. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, ni chercher son propre intérêt, ni insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne songe pas au mal. Et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle l'emporte. L'amour protège tout. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Il sait supporter les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. L'amour ne disparaît pas. L'amour est éternel. Seigneur Dieu, quel portrait, Seigneur, tu mets devant moi, tu mets devant nous. Dans le fond de nos cœurs, Seigneur Dieu, c'est ce qu'on désire le plus au monde. Dans ce nouveau cœur que tu nous as donné, Seigneur, c'est notre prière. Qu'on ressemble à ça de plus en plus, Seigneur. Je te demande de me pardonner, Seigneur, tout ce qui n'est pas à la hauteur. De mettre en moi, Seigneur, une tristesse, selon Dieu. Pour chaque fois que je n'ai pas été à la hauteur de cet amour. Et Seigneur, je reçois ton pardon maintenant. Je crois que lorsque tu es mort à la croix, tu as pris ça sur toi, Seigneur, tous mes manquements. Et tu m'as lavé, purifié de tout péché. Seigneur, je reçois ton pardon maintenant. Et Seigneur, je veux me relever maintenant avec ce désir d'aimer comme tu l'as enseigné à l'apôtre Paul, à l'apôtre Jean et à l'apôtre Pierre. Seigneur, c'est le désir dans le fond de mon cœur. Et Père Céleste, que son Saint-Esprit nous saisisse maintenant et que nous soyons ses témoins, que nous connaissons l'amour de Jésus. Et voici ce que ça fait dans ma vie. Voici ce que ça fait dans notre église, dans notre communauté. Voici ce que ça fait dans le village. Voici ce que ça fait dans l'ouest de l'île. Ô Père Céleste, on vient tel que nous sommes, faibles, mais avec cette promesse, que ta puissance agit en nous. Alors Père Céleste, nous te remettons nos vies entre tes mains. Oui, Seigneur, je t'aime. Et c'est pas juste des lèvres. Reçois, Seigneur, cette profession du cœur. Et agis avec puissance, comme tu l'as fait avec Pierre. Nous t'en prions dans le nom puissant de Jésus. Amen.